Flux 4.
Flux 4.
La web station européenne.
Vous écoutez Flux 4.
Flux 4. Écoutez Flux 4 sur flux4.eu.
Flux 4 avec notre troisième invité pour ce jour de grand retour de la radio au Festival Entrevue de Belfort, et c'est au tour de la cinéaste, photographe et autrice Nadège Abadi de nous rejoindre pour discuter d'un court-métrage qu'elle présente en compétition officielle cette année, un film intitulé Béchard qui laisse une impression forte et durable bien longtemps après sa vision. Bonsoir Nadège Abadi.
Bonsoir.
Alors Béchard, c'est le prénom de cet homme que l'on voit avancer de dos longuement dans un paysage dont on apprendra bientôt qu'il est celui des rives du lac de Genève. Votre caméra le suit avec insistance, bien plus longtemps que l'exigerait d'ailleurs l'économie d'une dramaturgie dite classique et l'injonction de cette maudite intrigue qu'il faudrait toujours être obligé de raconter. Elle semble au contraire prendre le temps, votre caméra, d'imprimer la démarche heurtée, accidentée par la vie et donc boiteuse de cet homme, sur lequel le carton suivant, quelques lignes blanches inscrites sur fond noir, lève un tout petit peu le voile. On apprend que Béchard est un exilé, qu'il a fui son Kurdistan irakien natal après avoir subi trois guerres, puis les menaces de Daesh. On apprend qu'il est arrivé en 2014 en Suisse au prix d'une périlleuse traversée de la Méditerranée. On apprend qu'il pensait pouvoir faire venir sa famille à Genève. Mais 10 ans après son exil, Béchard attend toujours les siens. Dans la suite de votre film, Nadège Abadi, on a l'impression de rentrer dans la matière même dont est faite cette attente. Béchard se rase minutieusement devant un miroir, il fume ou repasse ses vêtements. Son mutisme, évoquant le recueillement, n'est interrompu que par le lancement d'un appel téléphonique qui n'aboutit pas. Dans la semi-pénombre de la chambre où il se change, Béchard enlève puis remet le lourd matériel orthopédique, dévoilant une jambe meurtrie et atrophiée. Il exécute ses gestes complexes avec la persévérance et l'habileté de celui qui doit vivre au quotidien ce handicap. À la fin de ce court-métrage, on ne saura pas comment cet homme a perdu sa jambe, même si nous sommes en mesure de le deviner. On ne saura pas non plus si Béchard retrouvera un jour sa famille, mais on aura eu le sentiment d'être passé avec lui de l'autre côté du rideau de l'invisibilisation, c'est un peu dur à dire, mais j'ai réussi, ordinaire, et d'avoir partagé une part de ses silences, de ses espoirs, de son attente. On a eu la conviction d'être allé au-delà des apparences et d'avoir en quelque sorte fraternisé avec cet homme qui, dans l'ultime plan de votre film, nous regarde droit dans les yeux, comme pour nous dire que son histoire, au fond, nous regarde peut-être un peu nous aussi. Alors, de 2016 à 2019, Nadège Abadi, vous avez dirigé des ateliers d'écriture et de photographie avec des hommes et des femmes exilés en Suisse. Cela a donné lieu à la parution d'un livre, Un silence d'exil, publié par les éditions d'Ambar en 2020. Est-ce à partir de cette expérience qui vous a mis au contact de ces personnes et de leurs problématiques qu'a germé en vous l'idée de réaliser ce film présenté aujourd'hui à Belfort ?
Tout à fait. D'abord, je voudrais dire que le travail dont vous parliez, que j'ai effectué entre 2016 et 2019, je l'ai fait avec une autrice qui s'appelle Marina Skalova. C'est elle qui a eu l'idée de ce travail et c'est elle qui a organisé les ateliers d'écriture et moi les ateliers de photographie. J'avais absolument aucune idée que j'allais faire un film. C'est en fait pendant ces ateliers à Genève, rue des Voisins tout particulièrement, que j'ai vu Béchard. On s'est liés d'amitié. Moi, j'étais jamais venue en Suisse, jamais à Genève. J'étais seule pendant un certain temps, lui aussi. Et en fait, il se trouve que je pensais qu'il aurait quelques rudiments d'anglais. Il se trouve qu'il parlait arabe et kurde, ni français, ni anglais. Et moi, je ne parle ni arabe, ni kurde, et je parle peut-être un peu mieux anglais que lui. Donc en fait, on a commencé à se parler, en tout cas à se côtoyer, sans aucune langue. C'était aussi le sujet, en tout cas, de notre travail « Silence d'exil ». Et ça a duré plusieurs années. Et en fait, au début, quand je l'ai vu, on va dire qu'il m'est un peu apparu comme un personnage de cinéma. Je ne sais pas si c'est très juste de dire ça, mais vous l'avez très bien dit, c'est le premier plan du film, sa démarche, qui est vraiment très particulière. Moi, je ne savais pas qu'il avait une jambe morte. Mais du coup, cette démarche vraiment très particulière qui le fait pivoter sur sa jambe valide, je sais que Marina l'a décrit à un moment donné dans son texte comme un patriarche aux ailes blessées. Et c'est exactement la manière dont il m'est apparu. Et après, en fait, je l'entendais parler donc en kurde. Il a une voix vraiment très, très particulière qu'on n'entend pas du tout dans le film parce que c'est un film qui est muet. Voilà. Et pourtant, qui raconte beaucoup de choses. Enfin, ça fait vraiment partie de ce que j'avais envie de faire ressentir. Et en fait, bah, il m'est apparu et je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose. J'ai reniflé quelque chose qui m'intéresserait peut-être. Et je suis quelqu'un qui aime bien fonctionner de façon intuitive. Je pense que c'est lié aussi à mon travail de photographe. Et de regarder, vraiment de prendre le temps de regarder ce qui m'entoure. Ça, c'est quelque chose qui est vital. Et du coup, j'ai vraiment regardé pendant longtemps Béchard avant de commencer à me rapprocher de lui et en fait à venir le voir régulièrement à Genève.
Il a fallu le convaincre de prendre part à ce film ?
Au début, je ne savais pas vraiment si je voulais... Je l'ai filmé un peu, je lui ai dit que j'étais photographe, mais que en fait, petit à petit, j'étais en train d'opérer une mutation vers le cinéma et que ça me plairait beaucoup de le filmer. Ça n'a pas du tout été compliqué. En vrai, il y a une espèce d'accord tacite entre nous. Et moi, c'est ce que je fais toujours quand je filme ou que je photographie des personnes. Je leur dis d'emblée ce qui va se passer. Et je leur dis aussi que si elles ne veulent pas, je ne leur en voudrais pas. Je crois qu'on me dit... C'est très rare qu'on me dise non. Parce que j'ai une forme de sincérité qui me donne accès à certaines personnes. Après, ça veut pas dire qu'il m'a tout donné dès le début et ça ne veut pas dire que je ne lui ai rien donné non plus. Donc ça a été tout à fait facile de le convaincre et aussi il faut dire qu'il était dans une forme de solitude, moi aussi, et en fait on a passé du temps ensemble.
Et quand vous le filmez, est-ce que vous avez déjà une idée de la distance, de position de caméra, de manière de filmer? Et aussi, est-ce que vous avez discuté entre vous les gestes ou bien ça s'est développé toute seule au cours du temps?
Ça s'est développé au fur et à mesure de ce que j'ai pu voir et de ce que j'ai pu lire avec Béchard. Et en fait, je l'ai quand même filmé de 2017 à 2023.
C'est très très long.
C'est très très long. Ça ne veut pas dire qu'on a beaucoup filmé, mais en tout cas, je l'ai filmé sur toute cette période. Et en fait, bah, j'ai cherché en filmant. Et pour tout vous dire, le premier plan du film, c'est le premier plan qu'on a tourné en 2017. Et tout le film a été tourné au cours d'une semaine en 2023. Donc c'est un peu comme si j'avais côtoyé Béchard, je l'avais étudié presque comme une anthropologue, étudié. J'ai vécu avec lui, il m'accueillait dans son studio de 17 mètres carrés, je dormais sur le canapé, il dormait par terre, j'ai vécu avec lui, évidemment de façon très ponctuelle, et j'ai observé, et en fait j'ai digéré pendant toutes ces années ce que je voyais, et j'ai choisi de le mettre en scène pendant une semaine, en 2023. Voilà. Et j'avais aussi peut-être cette... espérance. Je me disais que peut-être qu'en 2017, en 2018, en 2019, en 2020, en 2021, en 2022, en 2023, je filmerais l'arrivée de ces enfants. Ça ne s'est jamais produit. Voilà.
Donc, vous avez aussi fait partie de son attente. Donc, vous avez aussi participé à son propre attente qui crée une sorte d'expérience commune très propre au film, à l'image filmique. Donc, c'est une expérience commune. Je trouve ça très intéressant aussi.
C'est une expérience commune avec peut-être un pendant qui, pour moi, était un peu violent. Parce qu'en fait, moi, j'habite à Paris. Et moi, je prenais le train pour faire Paris-Genève, Genève-Paris, plusieurs fois par an. Je traversais la frontière. J'étais libre de mes mouvements. J'ai aussi avancé dans ma vie. Ma vie en 2016 est totalement différente de celle en 2024. J'ai eu des enfants, j'ai fait des films, j'ai fait de la photographie. Et en fait, au cours de ces... Parce que ça va faire quasiment 10 ans que je le connais. Ça fait bientôt 8-9 ans. Lui, ça fait 10 ans qu'il est à Genève. Et en fait, moi, je le voyais statique au cours de cette décennie. Et moi, avancer, on n'a que 10 ans d'écart, donc on est quand même assez, assez proches. Et ça, pour le coup, c'était à la fois donc, une expérience commune, mais assez violente. Voilà. Et donc, je pense que c'est ce qui a aussi un peu nourri le film que j'ai monté avec Mario Battistel, le monteur, parce qu'il y a des plans qui sont du coup très mis en scène dans le quotidien de Béchard, mais il y a aussi tous ces plans qui sont peut-être un peu plus poétiques, mais où du coup il y a le monde qui continue de tourner, la neige qui continue de tomber, l'eau qui coule, le train qui passe, enfin voilà, beaucoup de choses en mouvement, comme un contrepoint à sa à la situation statique.
D'ailleurs, justement, par rapport à ces plans atmosphériques, on voit des nuages, l'eau du lac, comme filmé au ralenti, qui a une sorte d'aspect huileux. On voit des paysages de forêt, vu d'un train certainement, la neige qui tombe comme de la cendre. Quel est le statut dans le film de ces images qui semblent flotter, planer de manière parfois sourde, comme ça, au-dessus de l'histoire de Béchard et du film?
Alors, c'est des images que j'ai tournées aussi avec mon chef opérateur, Jonathan Rigbourg. Et en fait, on en a tourné beaucoup plus. Et c'était vraiment, comme je disais, c'était vraiment pour essayer de faire ce contrepoint entre la situation absolument inextricable de Béchard et le monde qui continue de tourner et la vie qui continue d'avancer. Il y a aussi, au niveau du son, c'est un travail que j'ai fait avec Ken Yasumoto. Un jour, je suis arrivée avec lui parce que c'était assez compliqué de travailler sur un film vraiment très mutique. Et je suis arrivée avec des sons qui ont été enregistrés par la NASA, d'ondes qui se propagent entre le soleil et la Terre. C'est ce qu'on appelle en gros le son du soleil, de façon un peu banale. Et du coup, on s'est dit, ah, mais ça serait génial de mettre à des moments, vraiment comme si on sentait que la Terre continue de tourner, le soleil continue d'exister, et Béchard est là. Et il continue de vivre. Donc en fait, c'est voilà, à la fois au niveau du son et de ses plans qui emmènent ailleurs et qui font aussi référence un peu parfois à ce qu'on pourrait qualifier de vision interne de Béchard. C'est-à-dire qu'il est passé par un trajet de 18 jours dans la Méditerranée, il a été secouru par un bateau de la Croix-Rouge, il est arrivé à Genève par train. En faisant semblant de dormir, et parce qu'en fait un flic, enfin un monsieur qui est en charge de contrôler les billets à la frontière, en tout cas entre le train entre l'Italie et la Suisse, a bien vu qu'il faisait semblant de dormir, mais n'a pas voulu le contrôler. Et donc c'est toutes ces petites choses là que je voulais mettre aussi dans le film, qui sont pour le coup qui peuvent être accessibles aux spectateurs ou pas du tout. En tout cas, c'est ce qui fait l'essence.
Voilà, c'est ça qui fait leur force, à mon avis, c'est qu'elles sont suggérées. Hein. Vous appuyez pas du tout votre propos par ces plans. Au contraire, vous ouvrez l'imaginaire et à chacun, finalement, d'y voir ce qu'il veut. Et ça permet à nous, spectateurs, d'être installés assez confortablement dans ce film, même s'il traite évidemment de choses très sensibles. On y est bien, on est bien en compagnie de cet homme. On a l'impression d'être dans un rapport assez de respect, en tout cas, et que votre regard, en tout cas, le regard avec noblesse, et ça c'est quelque chose qui fait que effectivement la place du spectateur est plutôt agréable devant ces images.
J'ai une interprétation, mais vous me direz si c'est juste ou pas, mais j'ai l'impression que l'image numérique, ça attrape quelque chose de la réalité, mais d'une manière assez violente, alors que avec l'image analogique et argentique, on passe du temps avec, il y a une sorte de respect d'un côté moral, peut-être je l'interprète de manière assez loin, mais est-ce qu'il y avait une sorte d'intention chez vous d'utiliser l'image argentique, la pellicule, justement pour ça?
Tout est numérique.
Ah. Ouais.
Mais, ça arrive parfois.
Ouais, mais non, mais ça va faire plaisir à Jonathan Rigbourg. Non, c'était une... après, en vrai, on est plus sensible à la pâte, on va dire, argentique, analogique. Et en vrai, avec le numérique maintenant, quand on a un bon chef opérateur, un bon étalonneur, et quand on quand on travaille ce parti pris, on peut dire que c'est de l'analogique. Moi, ça me va.
Oui, parce qu'il y a une vraie matérialité hein, dans l'image, dans le film. C'est pour ça moi aussi, je pensais que c'était de l'analogique, je pensais que c'était de la pellicule, parce qu'il y a un grain, il y a une matière, et il y a aussi une douceur dans le rendu de la carnation, des peaux, des corps, de la lumière. Donc, bravo à votre chef opérateur.
Et à l'étalonneur, Yves Moore. Et c'est quelque chose, pour le coup, que nous avons pensé vraiment en amont. Et c'est quelque chose qu'on fait aussi dans d'autres de mes films et dans mes photographies aussi. Après, avec le numérique, vraiment, tout est possible. Et pour le coup, je trouve ça génial. C'est juste que parfois, on s'en empêche et que faut y aller. Voilà, c'est une question de curseur et je pense qu'il faut vraiment, y aller.
Et en même temps, je trouve ça bien parce qu'il y a quand même une tendance dans le cinéma indépendant aujourd'hui à utiliser l'argentique un peu comme une coquetterie dans des films où c'est pas forcément justifié, mais parce que ça fait bien, voilà, de tourner en 16 mm ou en 8 mm ou en 35 mm. Et pour le coup, bah là, on a un peu l'antithèse de ça parce que je pense que ça aurait été un film qui aurait été beau à tourner en argentique, mais que du coup, là, avec ce numérique qui nous redonne la patte de l'argentique. On retombe sur nos pattes.
Tout à fait. En vrai, j'adore l'analogique, mais ça, enfin, déjà un, ça coûte beaucoup plus cher et il faut se faire un peu chier, voilà, à tout point de vue. Et après, ce que je trouve peut-être le plus intéressant, et ça vaut pour la photographie et pour les films, c'est qu'en fait, on tourne moins. Et je crois que c'est ça qui me semble le plus intéressant, parce qu'en fait, maintenant, en numérique, on peut s'approcher vraiment de façon très, très proche d'un rendu plutôt analogique. Et donc, en vrai, moi, le paramètre qui me semble le plus important, c'est la manière dont on tourne plutôt que l'image en elle-même. Mais ce n'est que mon avis.
Et la facilité du numérique me rend un peu difficile de dire... de décider où s'arrêter. Pour vous, c'était comment, par exemple, de dire que mais oui, c'est bon?
Alors, ça, je le fais vraiment depuis toujours. Et je pense que ça vient peut-être de mon travail de photographe. Moi, j'avais l'habitude de travailler vraiment toute seule. Et du coup, de travailler toujours avec, la réalité, le réel. Et je sais qu'il y a énormément de photographies que je n'ai pas pu prendre. Donc, j'ai fait le deuil de ça, de tout ce que je ne pourrais pas photographier. Et je pense que c'est exactement comme ça. Enfin, en tout cas, je le transpose de la même manière en filmant. C'est-à-dire que je sais que je vais rater plein de choses. Et donc, il faut choisir. Je choisis mes combats avant de filmer. Et je sais qu'il y a des choses sur lesquelles je ne lâcherai rien. C'est-à-dire que je sais que je les veux. Par exemple, le dernier plan où on est vraiment face à lui et on zoome très, très lentement. Voilà, ça, je savais que je le voulais. Et il y a plein d'autres choses que j'ai ratées ou que j'ai vues, mais qu'on n'a pas filmées. Et j'ai fait le deuil de ça. Voilà.
Alors, pour rester dans la photographie et puis pour rester aussi dans l'ambiance de ce dernier plan, vous êtes photographe, vous l'avez dit, et dans votre pratique photographique, mais aussi littéraire, vous êtes amené à faire des portraits de personnes, qu'il s'agisse d'exilés, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, ou de femmes nées au début du XXe siècle, comme dans « Tout ce que je leur dois », votre ouvrage qui est apparu chez Flammarion en 2022. Et il me semble en effet que ce film, Béchard, c'est une réflexion sensible sur cette notion de portrait, parce qu'il est lui-même un portrait alors lacunaire, lapidaire, partiel, et que vous semblez dire à travers lui que tout portrait ne peut exister que dans une forme d'échec, d'incomplétude, d'impossibilité à pouvoir tout dire. Et à mon avis, c'est précisément à cet endroit qu'il devient vivant et complexe, du coup, et qu'il devient un événement. Et on a l'impression d'assister à un événement quand on voit le film. Donc sur cette notion de portrait, c'était quelque chose que justement vous portiez, vous, à travers votre travail sur Béchard?
Tout à fait, sur Béchard, et puis qui me traverse depuis très longtemps. Parce que je pense qu'en réalité, un portrait, c'est d'abord une rencontre, qu'elle se fasse ou qu'elle ne se fasse pas. Par exemple, mon prochain film sur lequel je travaille, qui est en partie tiré de mon livre publié chez Flammarion, c'est l'histoire d'un fantôme. Donc encore une fois, c'est une rencontre qui n'a jamais eu lieu, mais qui pourtant a eu lieu à travers d'autres personnes qui m'ont parlé de cette femme. Et donc, oui, le portrait... Moi, j'aimais bien dire que, quand j'étais photographe, que je ne tirais pas le portrait, parce que je trouvais que tirer, c'était quelque chose de...
violent.
De violent. Après, le cinéma a filmé Béchard qui se déshabille pour mettre son attelle et tout. C'est violent. Mais j'aimais bien dire que je le tissais. Et en fait, cette métaphore textile de quelque chose avec, enfin, du lien, voilà, c'est quelque chose qui m'importe beaucoup. Et je suis quelqu'un qui est très présente au montage. Je trouve que le montage, c'est presque là où le film s'écrit réellement. Et je crois que c'est ça qui me plaisait aussi avec ces deux qualités de plans, c'est deux plans différents, deux types de plans, pardon, à facture très différente dans le film, parce qu'il y a aussi très très peu de plans, et donc d'éprouver ce temps-là aussi, comme vous disiez, en creux, et l'attente, voilà, le fait d'attendre et de mettre le spectateur dans cette position-là, c'était pour moi quelque chose de très important. Et après, il y a un autre, quand je parlais de rencontres, ce que j'aime dans les portraits, c'est que ça nous poursuive. C'est que ça, enfin, en tout cas, moi, les films qui me marquent sont ceux auxquels je pense après, tout de suite après, deux jours après, une semaine après, une année après. Et en fait, d'être marqué par ces films-là ou par ces photographies, mais pour moi, c'est plus fort à travers des films. C'était quelque chose que je voulais absolument pour Béchard, parce que c'est son parcours, lui, c'est un homme en somme toute très ordinaire qui a une vie où il ne se passe absolument rien depuis 10 ans, et c'était quelque chose, en tout cas avec Marion on en avait parlé, c'était quelque chose qui était très important, parce que l'exil, en tout cas raconter cet exil là qui est très ordinaire, vraiment à la Pérec, c'est ce qui revient tous les jours, c'est le banal, c'est le quotidien, c'est ce qu'on n'arrive plus à voir, en fait de le rehausser, de lui donner de la hauteur, c'était quelque chose, de l'élever, c'était quelque chose de primordial.
Et avant ou après, ou bien pendant le montage, est-ce que Béchard a regardé le film, ou le Roche, ou est-ce qu'il a commenté, ou bien vu de l'extérieur sa propre image après ?
Eh bien, en fait, il a vu le film, et ça lui a plu, mais ce qui lui a beaucoup plus, et c'est ce à quoi je m'attelais assez régulièrement, c'était de lui montrer des rushs que je montais parfois, juste pour, mais au cours de toutes ces années pour le coup. Donc il a vu la manière dont je filmais, ce que je filmais, parfois à son insu, et ça c'était vraiment comme une espèce de contrat qu'on avait entre nous, qui s'est instauré, en tout cas que j'ai instauré, et je lui montrais quelquefois ces images-là, voilà. Et oh. D'ailleurs j'y pense, mais vu qu'on est à la radio et que le c'est sonore. C'est un homme qui, du coup, est seul, qui regarde beaucoup la télévision, qui écoute énormément de musique. Et je sais qu'à un moment donné, je voulais absolument qu'il y ait une musique dans le film. Et on s'en est défait petit à petit, vraiment pour aller, pour que la substantifique moelle reste. Et c'est une musique d'un Kurde qui s'appelle Abdul Kahar. Et qui s'appelle Sinebe. Et ça, c'est vraiment, donc on peut l'écouter que sur YouTube. Mais c'est vraiment une musique qui a accompagné, en tout cas, quand je filmais Béchard, quand j'ai monté, et à chaque fois que je passais du temps avec lui, c'est la bande-son du film qui n'est pas dans le film.
L'inconscient, bande-son inconscient.
Exactement.
C'est une musique traditionnelle ou c'est plutôt une musique populaire de là-bas ?
J'en sais rien. C'est une musique que Béchard écoutait des dizaines de fois par jour.
Alors, je parlais d'aller au-delà des apparences tout à l'heure dans ma présentation, et c'est aussi le sens des mots qu'on peut lire à la fin. On croit que ceux qui ne parlent pas ne pensent rien, que ceux qui sourient sont heureux. Votre film va plus loin que la simple façade, la simple surface, notamment parce qu'il prend le pari du plan prolongé, du regard dans l'insistance d'un temps qui s'étire. Pouvez-vous nous parler de ce parti pris esthétique fort, qui est moins celui de raconter cet homme que de nous le montrer dans la durée forcément longue, et on le devine interminable pour lui, de son exil et de son attente. Là, il y a vraiment quelque chose de fort dans le film, c'est que vous installez une durée, et je dirais que vous ne nous l'imposez pas, mais vous allez jusqu'au bout, comme une tentative d'épuisement de quelque chose.
Tout à fait. En fait, je me suis dit, c'est quand même un court-métrage. Enfin, c'est un court-métrage, ça dure 25 minutes. Je pense que pour certains, c'est compliqué de rester devant des plans. Après, moi, j'ai jamais vu un homme qui se rasait comme ça. Hein. Je sais que j'ai des hommes qui se rasent et qui ont vu ce plan-là, qui ont essayé, qui se sont coupés. Mais du coup, le plan dure longtemps. Je crois qu'il dure 7 minutes, le plan où il se rase. Et en fait, je me disais, oh bah, les gens vont peut-être en avoir marre à la fin. Mais en vrai, ça dure que 25 minutes. Béchard, ça fait 10 ans que c'est comme ça. Donc en fait, je trouvais très bien qu'on soit obligé, et donc peut-être que c'est un peu difficile, oui c'est sûr, j'ai pas beaucoup de plans, oui c'est sûr, en fait il faut attendre, oui c'est sûr, en fait il faut prendre le temps de regarder, et du coup d'être un peu avec lui, c'est pas vraiment de souffrir, mais en tout cas de se rapprocher de cette notion-là du temps, qui est le sien, et en l'occurrence qui est un simili du sien, parce que c'est vraiment 25 minutes, c'est pas 10 ans. Et du coup, c'était vraiment une volonté de ma part que l'on éprouve et qu'en fait, ça soit vraiment du cinéma de sensation. Parce que je crois que c'est Annie Ernaux qui dit, je sais plus dans quel livre, mais elle dit « raconter des histoires, ça fait un peu tarte. Ce qui compte, c'est la forme. » Et en gros, évidemment, il y a ce qui est dans la forme, mais vraiment de trouver une forme pour faire éprouver quelque chose aux spectateurs, aux lecteurs, aux regardeurs, je crois que c'est vraiment très important.
Oui, parce que c'est un temps créatif et créateur, en fait. C'est un temps de la révélation aussi du visage d'un homme, puisqu'il se rase au début, il a la mousse, et à la fin, voilà, on voit ses traits. Vous parliez tout à l'heure de travailler à l'os votre film. Voilà, on le voit dans une forme de nudité, quelque part. Et par rapport à ce que vous dites des histoires, de la narration classique, et que votre propos, c'est peut-être pas de raconter une histoire, il y a quelque chose qui m'a étonné aussi et qui m'a plu dans le film, c'est le rapport au montage et donc au cut qui sont pas vraiment des cuts. Vous marquez la séparation entre deux plans par un écran noir qui dure quelques secondes. Vous pouvez parler de ça? Est-ce que c'est une manière de dire, bon, moi je suis pas là pour vous raconter une fantaisie ou quelque chose, on est d'abord là pour dresser, pour faire le portrait de quelqu'un?
Oui, alors il y a pas que des noirs entre les plans, mais c'est vrai qu'il y en a un certain nombre. Et en fait, c'est venu, je ne sais pas comment dire, c'est vraiment une forme d'intuition un peu qui existe au montage ou qui n'existe pas. Et après, en fait, c'était aussi une manière de... Encore une fois, je vais dire que c'est violent, en tout cas, c'est très abrupt, c'est très sec, mais comme l'est la situation. Et donc, du coup, je trouvais que ça, et de se retrouver face à un écran noir où parfois il n'y a vraiment pas de son, et parfois c'est le son qui vient prolonger en fait, mm-hmm. le plan, et ben, c'était aussi pour donner un peu une. C'était à la fois pour donner à voir et donner à penser. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressée dans ce film, qui est assez différent des autres films que j'ai pu faire, et encore différent des films beaucoup plus bavards que j'ai envie de faire après. Et donc oui, c'est sûr, c'est pour placer le spectateur face à ce qu'il voit, en fait, devant un écran noir. Ça, c'est très important, ouais.
Alors, on pense à Béchard et on espère qu'il retrouvera sa famille. Et on vous souhaite vraiment le meilleur dans l'accompagnement de ce court-métrage à entrevue. Merci beaucoup, Nadège Abadi.
Merci beaucoup.
Flux4. La web station européenne.
Vous écoutez Flux4.
Flux4. Écoutez Flux4 sur flux4.eu.